quelle quantité d'étoiles?
Oh, puis on voit partout. Derrière la Voie lactée, il y a les nébuleuses. Au-delà des nébuleuses, il y a des tas d'autres étoiles.
Mais comment sais-tu tout ça?
Je l'ai souvent regardé au télescope.
La place Vendôme, ouais.
Tiens, là-bas, c'est la Grande Ourse.
Et là?
Ça peut pas faire de mal.
Tu sais que la vitesse de la lumière est de 300 000 km à la seconde.
Oh, c'est fou, ça. Mais crois-tu qu'il y a des hommes dans les étoiles?
Ah, bah oui, sûrement, il y a... Il y a des commerçants, des gendarmes, des...
Mais quel est le but de tout ça?
Il n'y a peut-être pas de but.
J'aimerais tant savoir comment l'univers s'est fait.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça ne peut pas faire de mal. Si Flaubert est Madame Bovary, selon sa propre exclamation, non moins évidemment il est aussi et Bouvard et Pécuchet. La nécessité dans laquelle ils se trouvent de refaire avec eux leur programme encyclopédique de lecture, il lut, dit-il, plus de 1500 volumes dans ce but, n'a pu que confirmer cette identification. Mais par la vertu même de la puissance créatrice de Flaubert, cette identification est valable pour tout un chacun. Et que celui qui parle avec mépris des deux héros de ce livre s'examine lui-même avec lucidité, et il avouera qu'il est bien lui-même tel que cela. Car si l'on voit dans la dernière œuvre de Flaubert le tableau de la bêtise humaine, on ne tarde pas à s'apercevoir que l'on suit moutonnement un bien grand lieu commun, et de répéter que ces deux héros sont deux imbéciles de base et de sommet, comme l'écrivit l'un des critiques les plus obtus du XIXe siècle, c'est tomber dans l'interprétation la plus vulgaire et la plus superficielle, et démenti formellement par Flaubert lui-même. Je cite « Il s'informait des découvertes, lisait des prospectus, et par cette curiosité, leur intelligence se développa. » Car Bouvard et Pécuchet n'est pas seulement une épopée de la bêtise humaine, mais une épopée de l'esprit humain tout court, en général. Et voyons, que ne faut-il pas se croire pour juger Bouvard et Pécuchet des imbéciles de base et de sommet? Il se passe ici la même chose que pour Don Quichotte. Ce qu'on prend pour caricature n'est que la révélation pure et simple de l'existence. Bouvard et Pécuchet sont une révélation de l'existence de l'homme, d'un certain aspect de la condition humaine, de la condition de l'homme en tant qu'animal raisonnable. Ainsi, Bouvard et Pécuchet, qui a été et reste pour quelques-uns une œuvre unique, le livre, est une véritable odyssée, une errance à travers la Méditerranée du savoir. Et la copie finale est l'Ithaque, où ils font, avec un enthousiasme plein de sagesse, l'élevage des huîtres perlières de la bêtise humaine. Cet exercice d'admiration est signé par un grand romancier du XXe siècle qui aimait se présenter comme un passionné de flaubertologie. Il s'agit de Raymond Queneau, qui rédige cette introduction à Bouvard et Pécuchet en 1947. Œuvre posthume et inachevée, le dernier roman de Flaubert est publié pour la première fois en 1881, tout juste un an après la mort de son auteur. Selon son ami Guy de Maupassant, qui l'aida à rassembler la documentation pour son livre, au total plus de 1500 ouvrages, ce projet d'encyclopédie en farce a occupé l'écrivain pendant toute sa vie. Depuis l'âge de 16 ans, ou lycéen, il écrit une nouvelle à propos d'un jeune commis qui ambitionne de devenir naturaliste jusqu'à ses derniers jours où, malade, il parvient à en achever le premier des trois volumes prévus. Œuvre posthume et inachevée, le dernier roman de Flaubert est publié pour la première fois en 1881, tout juste un an après la mort de son auteur. Selon son ami Guy de Maupassant, qui l'aida à rassembler la documentation pour son livre, au total plus de 1500 ouvrages, ce projet d'encyclopédie en farce a occupé l'écrivain pendant toute sa vie. Depuis l'âge de 16 ans, ou lycéen, il écrit une nouvelle à propos d'un jeune commis qui ambitionne de devenir naturaliste jusqu'à ses derniers jours où, malade, il parvient à en achever le premier des trois volumes prévus. Ce soir, pour clore notre cycle d'émissions consacrées à Flaubert, découvrons après l'éducation sentimentale et Madame Bovary ce drôle de couple masculin. Commençons par la scène de leur rencontre. Dans une lettre à sa nièce Caroline, du 6 août 1874, Flaubert écrit « C'est pour t'obéir que j'ai envoyé la première phrase de Bouvard et Pécuchet. Maintenant, tu ne sauras rien de plus d'ici longtemps. Je patauge. » Je rature, je me désespère. J'en ai eu hier soir un violent mal d'estomac. Les difficultés de ce livre-là sont effroyables. Je suis capable d'y crever à la peine. Voici le début qui lui a valu tant d'efforts. Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon se trouvait absolument désert. Au-delà du canal Saint-Martin, entre les maisons que séparent les chantiers, le grand ciel pur se découpait en plaques d'outre-mer. Et sous la réverbération du soleil, les façades blanches, les toits d'ardoise, les quais de granit éblouissaient. Une rumeur confuse montait au loin dans l'atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Deux hommes parurent. L'un venait de Bastille, l'autre du Jardin des Plantes. Le plus grand, vêtu de toile, marchait le chapeau en arrière, le gilet déboutonné et sa cravate à la main. Le plus petit, dont le corps disparaissait dans une redingote marron, baissait la tête sous une casquette à visière pointue. Quand ils furent arrivés au milieu du boulevard, ils s'assirent, à la même minute, sur le même banc. Pour s'essuyer le front, ils retirèrent leur coiffure que chacun posa près de soi. Et le petit homme aperçut, écrit dans le chapeau de son voisin, « Bouvard ». Pendant que celui-ci distinguait aisément dans la casquette du particulier en redingote le mot « Pécuchet ». « Tiens, dit-il, nous avons eu la même idée, celle d'inscrire notre nom dans nos couvre-chefs. Mon Dieu, oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau. C'est comme moi. Je suis employé. » Alors ils se considérèrent. L'aspect aimable de Bouvard charma de suite Pécuchet. Ses yeux bleuâtres souriaient dans son visage coloré. Un pantalon à grands ponts, qui godait par le bas sur des souliers de castor, moulait son ventre, faisait bouffer sa chemise à la ceinture, et ses cheveux blonds frisés lui donnaient quelque chose d'enfantin. L'air sérieux de Pécuchet frappa Bouvard. On aurait dit qu'il portait une perruque tant les mèches garnissant son crâne élevé étaient plates et noires. Sa figure semblait tout en profil à cause du nez qui descendait très bas. Ses jambes prises dans des tuyaux de lasting manquaient de proportion avec la longueur du buste et il avait une voix forte, caverneuse. Cette exclamation lui échappa. « Comme on serait bien à la campagne !» Mais la banlieue, selon Bouvard, était assommante par le tapage des guinguettes. Pécuchet pensait de même. Il commençait néanmoins à se sentir fatigué de la capitale. Bouvard aussi. Tout à coup, un ivrogne traversa en zigzag le trottoir. Et à propos des ouvriers, ils entamèrent une conversation politique. Leurs opinions étaient les mêmes, bien que Bouvard fût peut-être plus libéral. Un bruit de ferraille sonna sur le pavé dans un tourbillon de poussière. C'était trois calèches qui s'en allaient vers Bercy, promenant une mariée avec son bouquet, des bourgeois en cravate blanche, des dames enfouies jusqu'aux aisselles dans leurs jupons. La vue de cette noce amena Bouvard et Pécuchet à parler des femmes, qu'ils déclarèrent frivoles, acariâtres, têtues. Bref, il valait mieux vivre sans elles. Aussi Pécuchet était resté célibataire. « Moi, je suis veuf, » dit Bouvard. Et sans enfant. C'est peut-être un bonheur pour vous, mais la solitude à la longue était bien triste. Leurs paroles coulaient intarissablement, les remarques succédant aux anecdotes, les aperçus philosophiques aux considérations individuelles. Ils dénigrèrent le corps des ponts et chaussées, la régie des tabacs, le commerce, les théâtres, notre marine et tout le genre humain comme des gens qui ont subi de grands déboires. Chacun, en écoutant l'autre, retrouvait des parties de lui-même oubliées. Et bien qu'ils eussent passé l'âge des émotions naïves, ils éprouvaient un plaisir nouveau, une sorte d'épanouissement, le charme des tendresses à leur début. 20 fois, ils s'étaient levés, s'étaient rassis et avaient fait la longueur du boulevard, depuis l'écluse d'Amont jusqu'à l'écluse d'Aval, chaque fois voulant s'en aller, n'en ayant pas la force, retenus par une fascination. Ils se quittaient pourtant et leurs mains étaient jointes quand Bouvard dit tout à coup « Ma foi, si nous dînions ensemble ?»« J'en avais l'idée, » reprit Pécuchet, « mais je n'osais vous le proposer. » Ainsi leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Ils s'étaient tout de suite accrochés par des fibres secrètes. D'ailleurs, comment s'expliquer les sympathies ? Ce que l'on appelle le coup de foudre est vrai pour toutes les passions. Avant la fin de la semaine, ils se tutoyaient.
Il y a des moments où je commence à comprendre pourquoi les gens croient en la Providence. C'est comme si nous étions guidés. Car enfin, si nous n'étions pas sortis pour nous promener, nous aurions pu mourir sans nous connaître.
Mais je sais bien. Mais que peut-on en conclure ?
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain. C'est le printemps, on a 20 ans, le cœur et le moteur battent gaiement, droit devant nous, sans savoir où, nous filons comme des fous. Car aujourd'hui, tout nous sourit, dans une auto qu'on est bien entre amis, aussi chantons sur tous les tons, le bonheur d'être garçon. Avoir un bon copain, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car un bon copain, c'est plus fidèle qu'une blonde. Unis, main dans la main, à chaque seconde, on rit de ses chagrins quand on possède un bon copain.
Bientôt, nos deux compères ne se quittent plus et rêvent de s'installer ensemble à la campagne. Quelques mois plus tard, un héritage inattendu de Bouvard leur permet de mettre à exécution leur projet de retraite. Les voilà installés dans leur propriété, en Normandie, dans le village de Chavignoles, entre Caen et Falaise. Avec une frénésie d'apprendre, ils se mettent à potasser toutes les sciences. L'horticulture, l'agriculture et bientôt la chimie. Pour mettre en application leur théorie, ils se livrent corps et âme au dur labeur de la terre. Les bras nus, côte à côte, ils labouraient, sarclaient, émondaient, s'imposaient des tâches, mangeaient le plus vite possible, mais allaient prendre le café sur le vigneau pour jouir du point de vue sur leur domaine. Bouvard planta une pivoine au milieu du gazon et des pommes d'amour qui devaient retomber comme des lustres sous l'arceau de la tonnelle. Pécuchet fit creuser devant la cuisine un large trou et le disposa en trois compartiments où il fabriquerait des composts qui feraient pousser un tas de choses dont les détritus amèneraient d'autres récoltes procurant d'autres engrais, tout cela indéfiniment. Et il rêvait au bord de la fosse, apercevant dans l'avenir des montagnes de fruits, des débordements de fleurs, des avalanches de légumes. Mais le fumier de cheval, si utile pour les couches, lui manquait. Les cultivateurs n'en vendaient pas. Les aubergistes en refusèrent. Enfin, après beaucoup de recherches, malgré les insistances de Bouvard et abjurant toute pudeur, il prit le parti d'aller lui-même au crottin. C'est au milieu de cette occupation que Madame Bordin, une riche veuve de leur voisinage, l'accosta sur la grande route. Quand elle l'eut complimenté, elle s'informa de son ami. Les yeux noirs de cette personne, très brillant, bien que petit, ses hautes couleurs, son aplomb, elle avait même un peu de moustache, intimidèrent Pécuchet. Il répondit brièvement et tourna le dos. Impolitesse que blâma Bouvard. Puisqu'il s'entendait au jardinage, il devait réussir dans l'agriculture. Et l'ambition les prit de cultiver leur ferme. Avec du bon sens et de l'étude, ils s'en tireraient sans aucun doute. Dès le soir, ils sortirent de leur bibliothèque les quatre volumes de « La maison rustique », se firent expédier le cours de Gasparin et s'abonnèrent à un journal d'agronomie. Leur exploitation comprenait 15 hectares en cours et prairies, 23 en terres arables et 5 en friches. Ils se procurèrent tous les instruments indispensables, 4 chevaux, 12 vaches, 6 porcs, 160 moutons et, comme personnel, 2 charretiers, 2 femmes, 1 berger. Ils couraient d'un bout à l'autre de leur domaine. Ils haletaient, portaient de lourds sabots, s'amusaient énormément. Excité par Pécuchet, Bouvard eut le délire de l'engrais. dans la fosse au compost, furent entassés des branchages, du sang, des boyaux, des plumes, tout ce qu'il pouvait découvrir. Il employa la liqueur belge, le lisier suisse, la lessive, les harengs sourds, du varech, des chiffons, fit venir du guano, tâcha d'en fabriquer, et poussant jusqu'au bout ses principes, ne tolérait pas qu'on perdît l'urine. Il supprima les lieux d'aisance. On apportait dans sa cour des cadavres d'animaux dont il fumait ses terres. Les charognes dépecées parsemaient la campagne. Bouvard souriait au milieu de cette infection. Une pompe installée dans un tombereau crachait du purin dans les récoltes. À ceux qui avaient l'air dégoûtés, il disait « Mais c'est de l'or, c'est de l'or !» Et il regrettait de n'avoir pas encore plus de fumier. Le colza fut chétif, l'avoine médiocre, et le blé se vendit mal à cause de son odeur. Contre toute attente, Bouvard, l'année suivante, avait devant lui une belle récolte de froment. Il imagina la dessécher par la fermentation, genre hollandais, système Klappmeyer, c'est-à-dire qu'il la fit abattre d'un seul coup et tasser en meule, qui serait démolie dès que le gaz s'en échapperait, puis exposée au grand air. Après quoi Bouvard se retira sans la moindre inquiétude. Le lendemain, pendant qu'ils dînaient, ils entendirent sous la hêtraie le battement d'un tambour. Presque aussitôt, la cloche de l'église tinta violemment. Une angoisse saisit Bouvard et Pécuchet. Ils se levèrent et, impatients d'être renseignés, s'avancèrent tête nue du côté de Chavignolles. Le tambour continuait de battre, la cloche tintait plus fort. Enfin, ils atteignirent les premières maisons du village. L'épicier leur cria de loin « Le feu est chez vous !» Pécuchet prit le pas de gymnastique et il disait à Bouvard, courant du même train à son côté « Une, deux, en mesure, comme les chasseurs de Vincennes !» La route qui suivait montait toujours. Le terrain en pente leur cachait l'horizon. Enfin, ils arrivèrent en haut, et d'un seul coup d'œil, le désastre leur apparut. Toutes les meules, çà et là, flambaient comme des volcans au milieu de la plaine dénudée, dans le calme du soir. Il y avait autour de la plus grande 300 personnes, peut-être, et sous les ordres de M. Fourreau, le maire, en écharpe tricolore, des gars avec des perches et des crocs tiraient la paille du sommet afin de préserver le reste. Bouvard, dans son empressement, faillit renverser Madame Bordin qui se trouvait là. Puis, apercevant l'un de ses valets, il l'accabla d'injures de ne l'avoir pas averti. Bouvard perdait la tête. Il défendait d'abattre les meules. Il exigeait de l'eau, réclamait des pompiers. « Est-ce que nous en avons ?» s'écria le maire. « C'est votre faute !» reprit Bouvard. Il s'emportait, proféra des choses inconvenantes et tous admirèrent le sang-froid de Monsieur Fourreau. Cependant, la chaleur des meules devint si forte qu'on ne pouvait plus en approcher. Sous les flammes dévorantes, la paille se tordait avec des crépitations. Les grains de blé vous cinglaient la figure comme des grains de plomb. Puis la meule s'écroulait par terre en un large brasier d'où s'envolaient des étincelles. La nuit était venue, le vent soufflait, des tourbillons de fumée enveloppaient la foule. Bouvard contemplait l'incendie en pleurant doucement. Madame Bordin, en jouant avec les franges de son châle vert, l'appelait « pauvre monsieur », tâchait de le consoler. Pécuchet ne pleurait pas. Très pâle, ou plutôt livide, la bouche ouverte et les cheveux collés par la sueur froide, il se tenait à l'écart dans ses réflexions. Le dommage était considérable et pour se reconnaître dans leur situation, Pécuchet, pendant 8 jours, travailla les registres de Bouvard qui lui parurent un véritable labyrinthe. Il reconnut la vérité. Pas de marchandises à vendre, aucun effet à recevoir et en caisse, 0. Le capital marquait un déficit de 33 000 francs. Bouvard n'en voulut rien croire et plus de 20 fois, ils recommencèrent les calculs. Ils arrivèrent toujours à la même conclusion. Encore 2 ans d'une agronomie pareille, leur fortune y passait. Le seul remède était de vendre.
On voit bien qu'il y a les corps simples et les corps composés. Mais pourquoi dit-on que les corps simples sont peut-être composés?
Non, mais ça, c'est la même chose pour les acides et pour les bases. Un corps peut se comporter comme un acide ou comme une base, suivant les circonstances.
C'est comme un...
Mais sais-tu que la Terre, comme élément, n'existe pas?
Qu'est-ce que tu me dis là?
Ben tiens! C'est là. Et que l'homme contient du phosphore comme les allumettes. Et de l'albumine, comme les blancs d'œufs.
Tout de même incroyable, c'est que Le diamant ne soit que du charbon.
Là, je t'avoue que je me perds un peu dans la théorie des atomes.
Moi aussi.
Bouvard et Pécuchet décident d'abandonner l'agriculture et se passionnent pour la géologie. Les voici en expédition scientifique en bord de mer. Un jour qu'ils collectent des silex au milieu de la route, à la recherche de fossiles rares, ils rencontrent Monsieur le curé qui les encourage à persister dans cette science pieuse qu'ils considèrent comme la preuve du déluge. L'ecclésiastique aiguise leur curiosité en les mettant sur la piste d'un mystérieux crocodile qui aurait été découvert non loin de là, sur la côte normande. Bouvard et Pécuchet prirent la diligence de Falaise pour Caen. Ensuite, une carriole les transporta de Caen à Bayeux. De Bayeux, ils allèrent à pied jusqu'à Port-en-Bessin. On ne les avait pas trompés. La côte des Hachettes offrait des cailloux bizarres. Et sur les indications de l'aubergiste, ils atteignirent la grève au pied des falaises. La marée était basse, elle découvrait tous ses galets, avec une prairie de goémons jusqu'au bord des flots. Ils titubaient sur des herbes gluantes ou bien ils avaient à sauter des trous. Bouvard s'assit près du rivage et contempla les vagues, ne pensant à rien, fasciné, inerte. Pécuchet le ramena vers la côte pour lui faire voir un ammonite incrusté dans la roche comme un diamant dans sa gangue. Leurs ongles se brisèrent, il aurait fallu des instruments, la nuit venait d'ailleurs. Le ciel était empourpré à l'occident et toute la plage couverte d'une ombre. Au milieu des varechs presque noirs, les flaques d'eau s'élargissaient, la mer montait vers eux, il était temps de rentrer. Le lendemain, dès l'aube, avec une pioche et un pic, ils attaquèrent leur fossile dont l'enveloppe éclata. C'était un Ammonites nodosus, rongé par les boues mais pesant bien 16 livres. Puis ils rencontrèrent des éponges, des térébratules, des orques, mais pas de crocodiles. À son défaut, ils espéraient une vertèbre d'hippopotame ou d'ichthyosaure, n'importe quel ossement contemporain du déluge, quand ils distinguèrent, à hauteur d'homme, contre la falaise, des contours qui figuraient le galbe d'un poisson gigantesque. Ils délibérèrent sur les moyens de l'obtenir. Bouvard le dégagerait par le haut, tandis que Pécuchet, en dessous, démolirait la roche pour le faire descendre doucement sans l'abîmer. Comme ils reprenaient haleine, ils virent au-dessus de leur tête, dans la campagne, un douanier en manteau qui gesticulait d'un air de commandement. « Eh bien quoi, fiche-nous la paix !» Et ils continuèrent leur besogne. Bouvard sur la pointe des orteils, tapant avec sa pioche, Pécuchet, les reins pliés, creusant avec son pic. Mais le douanier réapparut plus bas, dans un vallon, en multipliant les signaux. Il s'en moquait bien. Un corps ovale se bombait sous la terre amincie et penchait, allait glisser. Un autre individu avec un sabre se montra tout à coup. « Vos passeports !» C'était le garde champêtre en tournée, et au même moment survint l'homme de la douane, accouru par une ravine. « Empoignez-les, père Morin, ou la falaise va s'écrouler !»« Mais c'est dans un but scientifique, » répondit Pécuchet. Alors une masse tomba, en les frôlant de si près tous les quatre, qu'un peu plus ils étaient morts. Quand la poussière fut dissipée, ils reconnurent non pas un fossile géant, mais le mât pourri d'un navire qui s'émietta sous la botte du douanier. Bouvard dit en soupirant, « Nous ne faisions pas grand mal. » « On ne doit rien faire dans les limites de la loi, » reprit le garde champêtre. « D'abord, qui êtes-vous pour que je vous dresse procès ?» Pécuchet se rebiffa, criant à l'injustice. « Pas de raison, suivez-moi. » Dès qu'ils arrivèrent sur le port, une foule de gamins les escorta. Bouvard, rouge comme un coquelicot, affectait un air digne. Pécuchet, très pâle, lançait des regards furieux. Et ces deux étrangers, portant des cailloux dans leurs mouchoirs, n'avaient pas bonne figure. Provisoirement, on les colla dans l'auberge dont le maître, sur le seuil, barrait l'entrée. Puis le maçon réclama ses outils. Ils les payèrent, encore des frais. Enfin, un monsieur qui avait la croix d'honneur les délivra. Et ils s'en allèrent, ayant donné leur nom, prénom et domicile, avec l'engagement d'être à l'avenir plus circonspect. Qu'importe, leur expédition avait été un enchantement. La majesté de la création leur avait causé un ébahissement infini comme elle. Leur tête s'élargissait, ils étaient fiers de réfléchir sur de si grands mystères. Lassés d'histoire naturelle, les deux savants se forment ensuite à la médecine. Mais leur échec à soigner un bossu ne fait qu'aggraver leur mauvaise réputation.
Les ressorts de la vie nous sont cachés. On ne trouve dans aucun auteur une définition convenable de la santé ou de la maladie. Moi, j'en viens à me croire malade. Toute la journée, je me demande est-ce que j'ai des douleurs.
Et je finis par en avoir.
C'est bien simple, je sais plus quoi manger. D'après notre manuel d'hygiène, toutes les viandes ont des inconvénients.
Plus un poisson est gros, plus il contient de gélatine.
Bon, les légumes donnent des aigreurs, le macaroni provoque le rêve, les fromages, bon, on dit qu'ils sont d'une digestion difficile, moi je sais plus quoi manger.
J'ai même lu qu'un verre d'eau pris le matin peut être dangereux.
Oui, quant au café, ça,
oh,
on n'en parle pas.
Et le chocolat, il n'y a rien de plus indigeste. Dans le fond, l'hygiène, c'est peut-être de la blague.
Par dépit, ils s'enferment chez eux et se découvrent une nouvelle passion pour la littérature. Ils lurent d'abord Walter Scott. Ce fut comme la surprise d'un monde nouveau. Les hommes du passé, qui n'étaient pour eux que des fantômes ou des noms, devinrent des êtres vivants. Rois, princes, sorciers, valets, garde-chasse, moines, bohémiens, marchands et soldats qui délibèrent, combattent, voyagent, trafiquent, mangent et boivent. Des paysages artistement composés entourent les scènes comme un décor de théâtre. L'hiver y passa. Après Walter Scott, Alexandre Dumas les divertit à la manière d'une lanterne magique. Ces personnages, alertes comme des singes, forts comme des bœufs, gais comme des pinsons, entrent et parlent brusquement, sautent des toits sur le pavé, sont crus morts et reparaissent. Il y a des trappes sous les planchers, des antidotes, des déguisements, et tout se mêle, court et se débrouille, sans une minute pour la réflexion. Bouvard n'en continua pas moins Walter Scott, mais finit par s'ennuyer de la répétition des mêmes effets. En haine du bric-à-brac romanesque, Bouvard prit George Sand. Il s'enthousiasma pour les belles adultères et les nobles amants, aurait voulu être Jacques, Simon, Bénédicte, Lélio et habiter Venise. Il poussait les soupirs, ne savait pas ce qu'il avait, se trouvait lui-même changé. L'œuvre de Balzac les émerveilla, tout à la fois comme une Babylone et comme des graines de poussière sous le microscope. Il n'avait pas soupçonné la vie moderne aussi profonde. « Quel observateur !» s'écriait Bouvard. « Moi, je le trouve chimérique, » finit par dire Pécuchet. « Il a fait un roman sur la chimie, un autre sur la banque, un autre sur les machines à imprimer. Nous en aurions sur tous les métiers et sur toutes les provinces, ce qui ne sera plus de la littérature, mais de la statistique ou de l'ethnographie. » Et Pécuchet se mit à étudier les pièces de théâtre. Porté à l'idéal, il tourna Bouvard insensiblement vers la tragédie. Ce qui leur plaisait, c'était l'emphase, les discours sur la politique, les maximes de perversité. Ils apprirent par cœur les dialogues les plus fameux de Racine et Voltaire, et ils les déclamaient dans le corridor. Bouvard, comme au Théâtre Français, marchait la main sur l'épaule de Pécuchet en s'arrêtant par intervalles et roulant ses yeux, ouvrait les bras, accusait les destins. Une fois dans la Cléopâtre de Marmontel, Pécuchet imagina reproduire le sifflement de l'aspic. Cet effet manqué les fit rire jusqu'au soir. La tragédie tomba dans leur estime. Ils abordèrent la comédie, qui est l'école des nuances. Il faut disloquer la phrase, souligner les mots, peser les syllabes. Pécuchet n'en put venir à bout et échoua complètement dans ses limènes. Un jour que Bouvard tâchait de faire comprendre à Pécuchet le jeu de Frédéric Lemaître, Madame Bordin se trouva tout à coup avec son châle vert et un volume qu'elle rapportait, ces messieurs ayant l'obligeance de lui prêter des romans quelquefois. Mais continuez, car elle était là depuis une minute et avait plaisir à les entendre. Immobile, elle écarquillait les yeux comme devant les faiseurs de tours. Ils s'excusèrent. Elle insistait. Il fallait lui servir quelque chose de bien. Ils la prièrent de leur désigner un morceau. Le choix l'embarrassait. Elle n'avait vu que deux pièces, Robert le Diable, à la capitale, et une autre à Falaise qui était bien amusante et qu'on appelait la brouette du vinaigrier. Enfin, Bouvard proposa la grande scène de Tartuffe au troisième acte. Bouvard, ayant désiré pour ce passage une robe, reparut avec une aube de moine et un Molière. Le commencement fut médiocre, mais Tartuffe venant à caresser les genoux d'Elmire, Pécuchet prit un ton de gendarme. « Que fait là votre main ?» Bouvard bien vite répliqua d'une voix sucrée. « Je tâte votre habit, l'étoffe est moelleuse. » et il dardait ses prunelles, tendait la bouche, reniflait avec un air extrêmement lubrique, finit même par s'adresser à Madame Bordin. Les regards de cet homme la gênaient, et quand il s'arrêta, humble et palpitant, elle cherchait presque une réponse. Pécuchet eut recours au livre et souffla « La déclaration est tout à fait galante !»« Ah oui !» s'écria-t-elle, « c'est un fier enjôleur !»« N'est-ce pas ?» reprit fièrement Bouvard. « Mais en voilà un autre d'un chic plus moderne. » Et, ayant défait sa redingote, il s'agenouilla et déclama la tête renversée. « Soyons heureux, buvons, car la coupe est remplie, car cette heure est à nous et le reste est folie. »« Comme vous êtes drôle !» Et elle riait d'un petit rire qui lui remontait la gorge et découvrait ses dents. « N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on vous aime à genoux ?»« Ici, on entend les cloches. Un montagnard les dérange, coupa Pécuchet. Heureusement, car sans cela... » Et Madame Bordin sourit au lieu de terminer sa phrase. Le jour baissait. Elle se leva. Bouvard l'accompagna à la porte du jardin. Il était encore ému de sa déclamation et elle éprouvait au fond de l'âme comme une surprise, un charme qui venait de la littérature. L'art, en de certaines occasions, ébranle les esprits médiocres. « Comment s'appelle votre dernier morceau ?»« C'est tiré de Hernani, un drame. »« Aussi, vous vous donnez un mal, » dit-elle. « Ce n'est pas que j'ai du talent, mais pour du feu, j'en possède. »« On voit, » reprit-elle en mettant un espace entre les mots, « que vous avez aimé autrefois. »« Autrefois seulement, vous croyez ?» Elle s'arrêta. « Je n'en sais rien. » Que veut-elle dire ? Bouvard sentait battre son cœur, et ayant jeté un regard autour d'eux, il la prit à la ceinture, par derrière, et la baisa sur la nuque fortement. Elle devint très pâle, comme si elle allait s'évanouir, et s'appuya d'une main contre un arbre, puis rouvrit les paupières, secoua la tête. « C'est passé, » dit-elle. Il la regardait avec ébahissement. La grille était ouverte. Elle ramassa tous les plis de sa jupe et se tenait au seuil de la porte indécise. « Voulez-vous mon aide ?» demanda Bouvard. « Inutile. »« Pourquoi pas ?»« Ah, vous êtes trop dangereux. » Et dans le saut qu'elle fit, son bas blanc parut. Bouvard se blâma d'avoir raté l'occasion. « Bah, elle se retrouverait. » Et puis les femmes ne sont pas toutes les mêmes. Il faut brusquer les unes, l'audace vous perd avec les autres. En somme, il était content de lui. Et s'il ne confia pas son espoir à Pécuchet, ce fut pour ne pas gêner son ami, qui lui avait fait un jour un aveu. En effet, Pécuchet n'avait jamais connu l'amour et possédait encore sa virginité.
Qu'est-ce que le style ? Peux-tu me le dire ? Qu'est-ce que le beau ? Et le sublime ?
Il faut une idée dans tout. Et les mots sont là pour exprimer les idées. Tu me demandes ce que c'est que le beau. Un cochon, par exemple, ne saurait être beau, vu ses habitudes immondes.
Mais non, 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 non. Mais non, mais tu n'y es pas du tout. Un arbre tordu par la tempête, par exemple. Hein? Ou la mort sanglante d'un héros. Ça peut être horrible. Mais ça peut être beau.
Alors quoi? Nous ignorons aussi les lois du beau. Il y a pourtant... un beau indestructible.
Je commence à me dire que l'esthétique, c'est de la blague.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal.
Puisqu'aucun oiseau ne fait le printemps, aucun hiver le feu crépitant, aucune pluie ne fait le beau temps. Vous m'en direz tant. Pour une idée reçue, dix de perdu, mariage pluvieux. Mariage heureux. Aucune perle et aucun diamant. faible et la femme enfin, puisqu'aucun ciel ne vaut le firmament. Vous m'en direz tant pour une idée reçue, disque perdu. On n'a plus de nouvelles, bonnes nouvelles. Sans drapeau, pas d'étendard sanglant, ni cessez-le-feu, ni combattant. Aucun blanc bonnet, ni bonnet blanc, pour une idée reçue, disque perdu. Mariage plus vieux, mariage heureux.
Michel Vinocq.
On a voulu penser, on a pensé que Bovary Pécuchet était un livre contre la science, puisque ces deux copistes se livrent à toutes les expériences possibles, à toutes les études possibles, et ils en finissent par un scepticisme absolu, parce que tout est contradictoire, rien n'est vrai. Or, il ne s'agit pas d'un pamphlet contre la science, mais contre la mauvaise méthode dans la science, et surtout contre la religion de la science. Parce que Bouvard et Pécuchet voudraient une science certaine. Ils voudraient une science dogmatique qui dise, dans toutes les disciplines, la vérité absolue. Or, Flaubert sait très bien que la science reste incertaine, évolutive, et que les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Loin d'attaquer la science, il la défend, il la promeut. La preuve est que nous en parlions, il voudrait que le gouvernement soit aux mains des savants, que la science domine. Mais il n'a pas cette religion de Bouvard et Pécuchet de la science.
La révolution de 1848 vient soudain mettre un terme à leurs ambitions artistiques. Ruinés moralement et financièrement, Bouvard et Pécuchet finissent par vendre leur domaine, en vie âgée, au seul acquéreur intéressé, Madame Bordin, qui se venge là de l'affront que lui avait fait Bouvard en refusant de l'épouser. Les voici en visite dans leur ancienne ferme. Bouvard et Pécuchet ont échappé au pire. L'étude des sciences les avait menés au scepticisme, et le scepticisme à une tentative de suicide. Un soir de Noël. Seul un miracle les avait sauvés, celui d'assister à la messe et de communier avec les villageois. Pour donner un sens à leur existence, ils ont adopté deux orphelins, Victor et Victorine, qu'ils tentent d'éduquer. Dans le passage suivant, ils font une promenade pour les sensibiliser à la faune et la flore, quand ils rencontrent leur ancien fermier. Un jour, dans une de ces promenades, ils entendirent crier des paons, jetèrent les yeux par-dessus le mur et au premier moment, ils ne reconnaissaient pas leur ferme. La grange avait un toit d'ardoise rutilant, les barrières étaient neuves, les chemins empierrés. Le père Gouilly parut. « Pas possible, est-ce vous ?» Que d'histoire depuis 3 ans, la mort de sa femme, entre autres. Quant à lui, il se portait toujours comme un chêne. « Entrez donc une minute !» On était au commencement d'avril, et les pommiers en fleurs alignaient dans les 3 masures leurs touffes blanches et roses. Le ciel, couleur de satin bleu, n'avait pas un nuage. Des nappes, des draps et des serviettes pendaient verticalement attachés par des fiches de bois à des cordes tendues. Le père Gouilly les soulevait pour passer quand tout à coup ils rencontrèrent Madame Bordin, nue-tête, en camisole, et sa domestique, Marianne, lui offrant à plein bras des paquets de linge. « Votre servante, messieurs, dit Madame Bordin, faites comme chez vous. Moi je vais m'asseoir, je suis rompue. » Le fermier proposa à toute la compagnie un verre de boisson. « Pas maintenant, dit-elle, j'ai trop chaud. » Pécuchet accepta et disparut vers le cellier avec le père Gouilly, Marianne et Victor. Bouvard s'assit par terre à côté de Madame Bordin. Il recevait ponctuellement sa rente, n'avait pas à s'en plaindre, ne lui en voulait plus. La grande lumière écrasait son profil. Un de ses bandeaux noirs descendait trop bas et les petits frisons de sa nuque se collaient à sa peau ambrée, moite de sueur. Chaque fois qu'elle respirait, ses deux seins montaient. Le parfum du gazon se mêlait à la bonne odeur de sa chair solide et Bouvard eut un revif de tempérament qui le combla de joie. Alors il lui fit des compliments sur sa propriété. Elle en fut ravie et parla de ses projets. Pour agrandir les cours, elle abattrait le haut bord. Victorine, en ce moment-là, en grimpait le talus et cueillait des primes vertes, des hyacinthes et des violettes, sans avoir peur d'un vieux cheval qui broutait l'herbe aux pieds. « N'est-ce pas qu'elle est gentille ?» dit Bouvard. « Oui, c'est gentil, une petite fille. » Et la veuve poussa un soupir qui semblait exprimer le long chagrin de toute une vie. « Vous auriez pu en avoir ?» Elle baissa la tête. « Il n'a tenu qu'à vous ?»« Comment ?» Il eut un tel regard qu'elle s'empourpra, comme à la sensation d'une caresse brutale. Mais de suite, en s'éventant avec son mouchoir, « Vous avez manqué le coche, mon cher. »« Je ne comprends pas. » Et sans se lever, il se rapprochait. Elle le considéra de haut en bas longtemps, puis souriant avec les prunelles humides. « C'est de votre faute. » Les draps autour d'eux les enfermaient comme les rideaux d'un lit. Il se pencha sur le coude, lui frôlant les genoux de sa figure. « Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ?» Et comme elle se taisait, et qu'il était dans un état où les serments ne coûtent rien, il tâcha de se justifier, s'accusa de folie, d'orgueil. « Pardon, ce sera comme autrefois. Voulez-vous ? » Et il avait pris sa main qu'elle laissait dans la sienne. Un coup de vent brusque fit se relever les draps et ils virent deux pans, un mâle et une femelle. La femelle se tenait immobile, les jarrets pliés, la croupe en l'air. Le mâle se promenait autour d'elle, arrondissait sa queue en éventail, se rengorgeait, gloussait, puis sauta dessus en rabattant ses plumes qui la couvrirent comme un berceau et les deux grands oiseaux tremblèrent d'un seul frémissement. Bouvard le sentit dans la paume de Madame Bordin. Elle se dégagea bien vite. Il y avait devant eux, béant et comme pétrifié, le jeune Victor qui regardait un peu plus loin. Victorine, étalée sur le dos en plein soleil, aspirait toutes les fleurs qu'elle avait cueillies. Le vieux cheval, effrayé par les pans, cassa sous une ruade une de ses cordes, s'y empêtra les jambes et galopant dans les trois cours, traînant la lessive après lui. Au cri furieux de Madame Bordin, Marianne accourut. Le père Gouilly injuriait son cheval. « Bougre de rosse, carcan, voleur !» lui donnait des coups de pied dans le ventre. Bouvard fut indigné de voir battre un animal. Le paysan répondit « J'en ai le droit, il m'appartient. » Mais ce n'est pas une raison. Et Pécuchet, survenant, ajouta que les animaux avaient aussi leurs droits, car ils ont une âme, comme nous, si toutefois la nôtre existe. « Vous êtes un impie !» s'écria Madame Bordin. Trois choses l'exaspéraient. La lessive a recommencé, les croyances qu'on l'outrageait et la crainte d'avoir été entrevue tout à l'heure dans une pose suspecte. « Je vous croyais plus forte, » dit Bouvard. « Je n'aime pas les polissons. » Et Gouilly s'en prit à eux d'avoir abîmé son cheval dont les naseaux saignaient. Il grommelait tout bas. « Sacré gens de malheur !» Les deux bons hommes se retirèrent en haussant les épaules. Et ce fut tout des adieux entre Bouvard et Madame Bordin. Et voici pour conclure un aperçu de la suite du roman tel que l'avait imaginé Flaubert. Isolés et méprisés, Bouvard et Pécuchet préparent leur retour à la vie publique sous la forme d'une conférence qu'ils s'apprêtent à donner à l'auberge de la Croix d'Or dans le village de Savignolles. Malgré leur échec auprès de Victor et Victorine, qui tombent peu à peu dans la délinquance, ils espèrent connaître le succès en inventant une méthode pédagogique pour adultes. Le manuscrit de Flaubert s'achève à l'entrée des deux compères à la fameuse auberge. Sous forme de notes, voici le contenu de leur conférence. Tout sépare à présent Bouvard et Pécuchet, l'optimisme de l'un se heurtant au pessimisme de l'autre. Qui aura raison ? L'avenir me dira. En attendant, découvrons le talent visionnaire de Flaubert. Le lendemain au déjeuner, il reparle de la conférence. Pécuchet voit l'avenir de l'humanité en noir. L'homme moderne est amoindri et devenu une machine. Anarchie finale du genre humain. Impossibilité de la paix. Barbarie par l'excès de l'individualisme et le délire de la science. Si les convulsions qui existent depuis 89 continuent sans fin entre deux issues, ces oscillations nous emporteront par leur propre force. Il n'y aura plus d'idéal, de religion, de moralité. L'Amérique aura conquis la terre. Avenir de la littérature, pignouflisme universel. Tout ne sera plus qu'une vaste orgie d'ouvriers. Fin du monde par la cessation du calorique. Bouvard voit l'avenir de l'humanité en beau. L'homme moderne est en progrès. L'Europe sera régénérée par l'Asie. Invention future, manière de voyager, ballon, bateau sous-marin avec vitres par un calme constant, l'agitation de la mer n'étant qu'à la surface. On verra passer les poissons et les paysages au fond de l'océan, animaux domptés, toutes les cultures, science future, régler la force magnétique. Paris deviendra un jardin d'hiver, espalier à fruits sur le boulevard, la Seine filtrée et chaude, abondance de pierres précieuses factices, prodigalité de la dorure, éclairage des maisons. On emmagasinera la lumière, car il y a des corps qui ont cette propriété, comme le sucre, la chair de certains mollusques et le phosphore de Bologne. On sera tenu de faire badigeonner les façades avec la substance phosphorescente, et leur radiation éclairera les rues. Disparition du mal par la disparition du besoin. La philosophie sera une religion, communion de tous les peuples, fête publique. On ira dans les astres, et quand la terre sera usée, l'humanité déménagera vers les étoiles.
Jean-François Revel.
Avant que le mot existe, Flaubert a posé dans Bouvard et Pécuchet exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le problème de la culture de masse. Qui sont Bouvard et Pécuchet ? Ce sont, disons, deux individus qui n'ont pas bénéficié de l'instruction par les voies traditionnelles et qui essayent de mettre les bouchées doubles. On dirait qu'on leur a livré à domicile la totalité de la collection des livres en format de poche du monde entier, chaque chapitre avec une espèce de rigueur mathématique hallucinante et parfois même un peu monotone, étant consacré à leurs efforts, leur prétendue ascension et leur chute verticale, l'échec de leurs tentatives, dû tantôt à la méchanceté des humains et tantôt aux limites de leur forme d'apprentissage, n'est-ce pas, de gavage. C'est une sorte de critique du gavage.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec Bernard Laniel à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El-Maki et Irène Menahem. Bonne soirée et à la semaine prochaine.